Vous écoutez On lit pour vous. Des bourses d'études pour venir en aide aux nouveaux arrivants et réfugiés en Colombie-Britannique. Un texte de Céline Nebar, paru le 27 mai 2026 dans La Source. Faisant face à la hausse du coût de la vie et aux difficultés d'accès aux études postsecondaires, de plus en plus de nouveaux arrivants et de réfugiés qui résident en Colombie-Britannique se tournent vers les bourses offertes par l'organisme Immigrant Service Society of BC, ISS of BC. Cette association, qui accompagne les nouveaux arrivants dans leur intégration dans la province, prévoit cette année une hausse vertigineuse des demandes pour leurs bourses. Pour Jonathan Oldman, le directeur général de l'organisme Immigrant Service Society of BC, ISS of BC, le rôle de son organisation va au-delà de l'aide administrative pure et simple. À l'ISS of BC, notre mission essentielle est de soutenir les nouveaux arrivants en les aidant à réussir leur parcours, à créer et à établir des réseaux dans leur nouvelle terre d'accueil, tout en stimulant leur confiance, souligne le responsable d'ISS of BC. Selon lui, l'immigration ne se limite pas seulement à débarquer dans un nouveau pays. Il s'agit également et surtout d'insuffler un sentiment d'appartenance et d'arriver à maintenir cet espoir d'un avenir meilleur. L'accompagnement, un vecteur pour faciliter l'intégration. L'éducation et le développement des compétences sont des jalons importants pour parvenir à réussir et à s'adapter de façon durable au Canada, rappelle Jonathan Oldman. Pour les étudiants immigrants et les réfugiés, l'adaptation au système d'éducation canadien représente souvent une étape complexe. Les parcours scolaires interrompus, les barrières linguistiques et les réseaux limités peuvent affecter la confiance et la préparation académique, indique Sadaf Maksoudi, coordonnatrice administrative des bourses d'études d'ISS of BC. Selon elle, la réalité économique accentue ces difficultés. La pression financière demeure l'un des plus grands défis, alors que plusieurs arrivent à reconstruire leur vie tout en assumant les frais de scolarité, le logement et le coût de la vie, poursuit-elle. Le parcours de Sahar Esmaili, arrivé au Canada il y a 4 ans en provenance de l'Afghanistan avec sa famille, met en évidence les défis récurrents que les nouveaux arrivants doivent affronter. J'ai postulé à plusieurs endroits et souvent je n'avais aucune réponse, explique-t-elle. Parfois, je me demandais si mon CV était d'un bon calibre ou si je disais les bonnes choses en entrevue, raconte-t-elle dans un témoignage publié par ISS of BC. Les démarches, une fois au Canada, ne sont pas toujours des plus simples, que ce soit pour la recherche d'emploi ou pour continuer des études. Les étudiants se butent aux obstacles de systèmes éducatifs peu familiers, à des processus d'admission complexes et parfois à la non-reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger, observe Sadaf Maksoudi. Une demande en hausse pour les bourses d'ISS of BC. Face à ces obstacles, ISS of BC propose un programme de bourse destiné aux nouveaux arrivants souhaitant poursuivre des études postsecondaires ou développer de nouvelles compétences professionnelles. Soutenir les étudiants immigrants et réfugiés représente aussi un investissement à long terme pour la Colombie-Britannique, martèle Jonathan Oldman. Selon le directeur général d'ISS of BC, permettre aux nouveaux arrivants d'accéder aux études et au perfectionnement professionnel favorise non seulement leur intégration, mais contribue également à répondre aux besoins du marché du travail et à renforcer l'économie provinciale. Des possibilités éducatives supplémentaires, y compris le perfectionnement des compétences, offrent aux nouveaux arrivants la chance d'atteindre leur plein potentiel. Une bourse, ce n'est pas seulement une aide financière, c'est aussi une reconnaissance du potentiel et du parcours de chaque étudiant, affirme la coordonnatrice administrative. Les chiffres témoignent de la demande en hausse pour les bourses d'ISS of BC, puisque le nombre de postulants est passé de 105 en 2024 à 172 en 2025. 22 étudiants ont reçu une bourse en 2025. L'an dernier, l'organisme a distribué plus de 60 000 $ en bourse, énumère Sadaf Maksoudi. De plus en plus de nouveaux arrivants considèrent les études comme une voie incontournable vers l'emploi et pour une intégration durable, relève-t-elle. Pour Jonathan Oldman, cet investissement dépasse le cadre individuel. Soutenir les nouveaux arrivants dans la réalisation de leur plein potentiel rapporte à tous en renforçant le tissu social, culturel et économique de la Colombie-Britannique, fait-il remarquer. Quant à Sahar Esmaili, la jeune immigrante afghane, elle n'a pas profité d'une bourse d'études, mais d'un soutien alternatif grâce au programme Be Hired de l'ISS of BC, un sésame gratuit en emploi et en formation professionnelle destiné aux jeunes nouveaux arrivants âgés de 16 à 29 ans en Colombie-Britannique. Cela m'a aidé à comprendre comment rédiger un CV solide, me préparer aux entretiens et me présenter professionnellement. Cela m'a permis de croire en moi, se presse-t-elle de préciser. À ce rythme, ISS of BC prévoit une nouvelle hausse des demandes de bourses d'études en 2026, surtout dans un contexte où les études postsecondaires s'imposent comme un levier indiscutable d'intégration. Au-delà du soutien financier, l'organisme met aussi à disposition différents programmes en emploi, en formation et en accompagnement communautaire afin d'aider les nouveaux arrivants à parachever leur intégration et à accéder à d'autres ressources. C'était des bourses d'études pour venir en aide aux nouveaux arrivants et réfugiés en Colombie-Britannique. Un texte de Céline Nebar, paru le 27 mai 2026 dans La Source. L'enseignement post-secondaire en français prend un nouveau tournant dans le Nord. Un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 10 juin 2026 dans Nunavoie. Le sommet pan-territorial qui a réuni des leaders et partenaires de l'éducation francophone du Nord les 3 et 4 juin à Yellowknife, territoire du Nord-Ouest, a été précédé d'une rencontre de travail entre l'AFY, l'AFN et le CNF. Cette rencontre leur a permis de franchir un cap vers la création d'un campus dans chacun des trois territoires. Depuis 2023, l'Association franco-yukonaise, AFY, l'Association francophone du Nunavut, AFN, et le Collège nordique francophone, CNF, travaillent de concert pour développer une offre de formation en français au niveau post-secondaire dans les territoires. C'est lors de la clôture du sommet pan-territorial sur l'apprentissage dans le Nord canadien que les trois partenaires ont annoncé le développement d'un campus dans chaque territoire à l'horizon de 2028. Ça fait 3 ans que je suis au Collège nordique et que l'on travaille sur un projet de collaboration pour le poste secondaire, relate Patrick Arsenault, directeur général au CNF. On n'avait pas vraiment de modèle clair, défini, mais on explorait. Puis là, on est arrivé à un point où tout le monde est d'accord. Donc, on a une aspiration commune. C'est sûr qu'il reste des détails à préciser, mais on vise d'avoir un collège nordique évolué en 2028 avec un campus à Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit, dit-il. On s'engage sur une transformation des services de formation et donc indirectement des associations communautaires, donc l'Association franco-yukonaise et l'Association francophone du Nunavik et du Collège nordique, pour pouvoir avoir une structure pan-territoriale, complète Souad Larfi, directrice du service formation à l'AFY. Donc, ça reposerait sur une transformation du CA du Collège nordique et puis le développement d'autres entités, d'autres services de travail au sein du Collège nordique pour supporter ce modèle. Prochaines étapes. Pour mettre sur pied cette nouvelle structure, chaque partenaire va mener prochainement des discussions avec son gouvernement territorial respectif concernant, entre autres, la pérennisation et la recherche de nouveaux financements et la validation du modèle de structure pan-territoriale. En parallèle, les trois partenaires visent à faire évoluer la gouvernance et à la structurer. C'est vrai que ça n'a jamais été fait, vraiment, dans notre collège, reconnaît Patrick Arsenault. C'est assez unique. Il y a peu d'exemples similaires au Canada. Donc, il va falloir qu'on développe un peu au fur et à mesure. Ça va être beaucoup de nouveautés dans les prochaines années, puis j'imagine beaucoup de négociations, puis de créativité pour voir comment est-ce que le modèle peut vivre, exister, évoluer, considérant nos différences, nos gouvernements territoriaux, les bailleurs de fonds. Madame Larfi précise que les associations communautaires seront toujours impliquées via une commission qui serait créée au sein de la future structure. Il y aura donc une implication des trois organismes communautaires, l'AFY, l'AFN et la Fédération franco-ténoise, de sorte qu'ils jouent leur rôle de porte-parole et qu'ils puissent aussi contribuer au développement de la structure et de s'assurer que les intérêts des communautés soient bien pris en compte par la future structure pan-territoriale. Un campus à Iqaluit. Le centre de formation Kujimanik offre de la formation linguistique, des ateliers communautaires, des services d'orientation et des formations continues et professionnelles, toutefois non créditées, contrairement à celles du CNF. Des cours d'anglais pour les nouveaux arrivants, programme LINC, et des cours de français pour les nouveaux arrivants, programme CLIC, sont également offerts en partenariat avec le CNF. On veut continuer d'offrir tout ça, affirme Marie-France Talbot, gestionnaire du centre de formation Kujimanik à l'AFN. On veut ajouter le volet post-secondaire et que les gens qui ont envie d'avoir un diplôme ou des cours crédités puissent le faire, ajoute-t-elle. Pour atteindre cet objectif, il faudrait que la future maison de la francophonie de l'AFN sorte de terre. Des locaux sont prévus pour nous dans ce bâtiment, précise-t-elle. Le projet impliquerait également l'embauche de nouveaux employés. On veut pouvoir mutualiser les ressources, puis travailler pour que le corps enseignant ou le personnel de soutien soit sur les trois territoires, informe la gestionnaire. En attendant, le centre de formation demeurera toujours dans les locaux de l'AFN. Le projet d'enseignement postsecondaire en quelques dates. 2023. L'AFY engage deux consultants afin de conduire une étude de faisabilité sur l'enseignement postsecondaire en français au territoire. Cette étude recommande, entre autres, une collaboration pan-territoriale entre le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Juin 2024. Première rencontre en présentiel des trois partenaires, l'AFY, l'AFN et le CNF, à Whitehorse, au Yukon. Le but de la rencontre est de définir la gouvernance, de discuter des infrastructures et de la signature pédagogique. Une entente de collaboration entre les trois organisations est signée. Octobre 2025. Deuxième rencontre en présentiel à Iqaluit au Nunavut pour établir un modèle de collaboration et de gouvernance en éducation postsecondaire en français dans les trois territoires. Mai 2026. Lors de la clôture du sommet sur l'apprentissage dans le Nord canadien à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest, les trois partenaires annoncent la finalisation du modèle de gouvernance de la future structure pan-territoriale. C'était « L'enseignement postsecondaire en français prend un nouveau tournant dans le Nord », un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 10 juin 2026 dans le Nunavoie.
Alimentation et ère numérique. Quel équilibre pour une bonne santé? Un texte de Bertrand Simsim d'IGL Réseau Presse, paru le 7 juin 2026 dans L'Eau Vive. Un bon départ pour vivre pleinement en santé en français, tel était le thème retenu pour l'édition 2026 du Forum Santé, tenu les 29 et 30 mai dernier à Saskatoon. L'événement, organisé par le réseau Santé en français de la Saskatchewan, a offert pratiques gagnantes et nouvelles dispositions pour un accès optimal des patients aux soins de santé en français. Lors de sa présentation « Nutrition et diététique, des alliés pour une vie en santé », Isabelle Giroux, l'une des intervenantes du forum, a montré que la nutrition et l'alimentation sont fondamentales à la fois pour la santé physique et la santé mentale. Les diététistes professionnels insistent. C'est vraiment important de commencer avec les tout-petits et leurs familles pour les aider à faire des choix alimentaires sains. Cela permet aux enfants de grandir en découvrant une variété d'aliments utiles pour leur développement et aussi pour leur succès scolaire. Selon la professeure titulaire de nutrition à l'Université d'Ottawa, les organismes communautaires, les institutions académiques, les associations de parents et le gouvernement gagnerait à collaborer pour établir des programmes tels que des cuisines collectives. Les recherches sur le sujet ont prouvé qu'une telle initiative outillerait les jeunes afin qu'ils soient plus critiques vis-à-vis de certains messages et contenus sur les médias sociaux, note l'experte. L'enjeu serait encore plus sensible au sein des communautés francophones en situation minoritaire qui n'ont pas toujours accès aux services éducatifs et de santé dans leur langue de préférence. Une grande proportion des membres de ces communautés font face aux défis de nutrition liés à l'alimentation et à la santé, avec un plus grand risque de développer le diabète de type 2, par exemple, soutient la professeure. Le poids de l'ère numérique. La Société canadienne de pédiatrie recommande de limiter ou d'éviter l'usage des écrans récréatifs pour protéger le développement cognitif, la santé physique et le bien-être émotionnel des enfants. Pour souligner le poids de cette régulation, Émilie Albert, directrice des communications de l'organisme Parents Partenaires en éducation, a rappelé une donnée statistique importante pour les Franco-Canadiens. Selon une récente étude faite par Santé Canada sur des populations de jeunes en 2019 et 2023, ceux qui avaient respecté le temps d'écran avaient une santé mentale de meilleure qualité que ceux qui ne l'avaient pas respecté. Par ailleurs, l'experte en petite enfance estime que les parents devraient s'interroger davantage sur la place qu'occupent les appareils électroniques dans la vie de leurs enfants. Ça ne se résume pas uniquement à réguler le temps passé devant l'écran, prévient-elle. Il s'agit d'aller voir quelle place, quel moment de la vie de l'enfant l'écran vient arracher. Chaque enfant présentant des besoins différents, on devrait réfléchir à comment intégrer les gadgets numériques et l'intelligence artificielle pour trouver des solutions plus adaptées, résume Émilie Albert. Le défi linguistique. Les communautés francophones ont souvent un accès restreint aux soins de santé en français. Et la Françaisquoise Dominique Ali-Mézeli, infirmière autorisée auprès des hôpitaux publics, a illustré ce point. Actuellement, il n'y a pas de poste qui requiert de parler français pour exercer la profession. C'est de manière accidentelle que je me retrouve à offrir des soins de santé aux francophones, indique-t-elle. Selon l'infirmière, ce ne sont que les services de traduction qui sont offerts aux francophones. En tant que patient, avoir un traducteur, c'est bien, mais avoir affaire à un professionnel de santé qui s'exprime en français, c'est encore mieux, avance-t-elle. D'après Alana Ross, ministre responsable des affaires francophones du gouvernement de la Saskatchewan, présente lors du forum, un travail de traduction est en cours de collaboration avec le fédéral. Pour ceux qui ne peuvent s'exprimer en anglais, il leur est offert un service de traduction lors de leur consultation médicale afin d'obtenir les soins appropriés, a indiqué la ministre. La responsable politique a ajouté que les francophones pouvaient bénéficier d'un travail de traduction sur les services de santé dans la province sur le site Tao Teled, permettant ainsi aux francophones d'avoir accès aux informations de notre système de santé en français. Si des efforts sont faits, il reste encore du chemin avant que les Françaisquois puissent vivre pleinement leur santé en français. C'était Alimentation et air numérique, quel équilibre pour une bonne santé? Un texte de Bertrand Simsim d'IGL Réseau Presse, paru le 7 juin 2026 dans l'Eau Vive.
Célébration de la fierté à Terre-Neuve et Labrador. La haine continue contre notre communauté. Un texte de Marie-Ève Dussablon paru le 2 juin 2026 sur Radio-Canada Info. En ce début du mois international de la fierté, une touche de couleur est venue égayer l'édifice de la Confédération. Le drapeau de la fierté y a été hissé lundi matin devant plusieurs représentants de la communauté et des organisateurs du défilé. Même si le mois de la fierté est célébré en juin, des festivités se déroulent partout dans la province jusqu'au mois d'août dans plusieurs communautés. À Saint-Jean, les principales célébrations auront lieu du 8 au 19 juillet sous le thème « This party is a protest » ou, traduit librement, « Cette fête est une manifestation ». On dit que la saison de la fierté, ça commence au mois de juin et ça va jusqu'au mois d'août ici, dit Aidé Cinq-Heures, co-président aux affaires externes de Fierté Saint-Jean. À travers le monde, les célébrations de la fierté en juin soulignent l'anniversaire des émeutes de Stonewall de 1969, un moment marquant dans la lutte continue pour l'égalité et les droits de la personne, souligne le chef du NPD de Terre-Neuve et Labrador, Jim Dean. Eddie Cinq-Heures prend également le temps d'expliquer que les festivités de la fierté sont célébrées à Saint-Jean en juillet, notamment en raison d'une météo généralement plus clémente, mais aussi pour perpétuer certaines traditions historiques, dont un feu à la plage. Ça a commencé dans les années 1970. Il y avait des gens queer qui se réunissaient pour un feu à la plage un mardi dans le mois de juillet, dit-il. Lors de ces rassemblements autour des feux de plage dans les années 1970, les membres de la communauté veillaient les uns sur les autres afin de se sentir plus en sécurité dans un contexte où il était difficile d'afficher ouvertement son orientation sexuelle. Discours haineux à Terre-Neuve et Labrador. Même si les drapeaux de la fierté flotteront un peu partout à Terre-Neuve et Labrador cet été, les discours haineux semblent eux aussi gagner du terrain, affirme M. Cinq-Heures. La semaine dernière, il a été mandaté par le centre communautaire Quadrangle Terre-Neuve et Labrador pour effectuer une tournée dans plusieurs écoles situées à l'extérieur du grand centre de Saint-Jean, notamment à Clarenceville, à Bonavista, à Port Rixton et à Port Blandford. Si plusieurs échanges avec les élèves se sont révélés très positifs et enrichissants, d'autres ont laissé entrevoir une certaine animosité à l'égard de la communauté queer, déplore-t-il. Selon lui, les réactions variaient considérablement d'une communauté à l'autre. Dans certaines écoles, les élèves posaient des questions comme « Comment ça se fait qu'il y a un mois au complet pour ça? » Il y a encore des discussions qu'il faut avoir, et on se demande où est-ce qu'ils apprennent cette animosité. Est-ce à la maison? Est-ce sur Internet? Dit Aider 5 heures. Par où commencer? Ça fait 5 ans maintenant que je dis que cette année est plus importante que la précédente parce que la haine est montée de nouveau. Mais ce qui est frustrant pour les bénévoles et les activistes comme nous autres, c'est que chaque fois que le mois de juin arrive, on nous demande si c'est plus important cette année, ajoute M. Cinq-Heures. La haine continue, la pression continue, l'animosité contre notre communauté continue, dit-il. Selon lui, le communautaire ne peut pas soutenir le tout. Il presse les gouvernements et les systèmes scolaires de trouver des solutions concrètes. À la Chambre d'Assemblée, Leila Evans, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a déclaré que l'égalité et la sécurité sont loin d'être acquises et a dénoncé les attitudes haineuses. « La discrimination ainsi que la haine n'ont pas leur place dans notre société », dit-elle. Eddie Cinq-Heures dit avoir confiance en la ministre, en poste maintenant depuis moins d'un an. « J'ai confiance que la ministre Evans vit sa vie comme lesbienne, comme femme autochtone, et qu'elle sait ce que ça représente d'être de l'autre côté de cette animosité. On a l'espoir qu'elle va être capable de pousser ça comme priorité pour le cabinet et pour le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. » De son côté, Jim Dean explique que son parti constate lui aussi un accroissement des discours haineux. Ces dernières années, nous avons constaté une hausse préoccupante des discours anti-2SLGBTQIA+, notamment une multiplication des attaques visant les personnes transgenres et les jeunes queer. Pendant une journée, l'édifice de la Confédération sera illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel afin de rappeler visuellement l'importance de la fierté. Le drapeau de la fierté sera également hissé sur le mât de courtoisie de l'édifice de la Confédération pendant 5 jours. Finalement, 4 passages piétonniers ainsi que des bancs aux couleurs de l'arc-en-ciel sont visibles en permanence sur le site de l'édifice de la Confédération. C'était « Célébration de la fierté à Terre-Neuve et Labrador. La haine continue contre notre communauté ». Un texte de Marie-Ève Dussablon, paru le 2 juin 2026 sur Radio-Canada Info.